Dia lupa potong gula ya, bicara yang pun.
Bonsoir, province de l'Équateur. Quel bilan dressé de la gestion de cette province à quelques mois de la fin de la législature sur les plans socio-économiques, sécuritaires et politiques? Nos invités dans cette émission sont Maître Dismas Mangbengu, directeur de cabinet du gouverneur de l'Équateur. Il est en ligne. Maître Mangbengu, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Jean-Marcel Lusungu, député provincial de l'Équateur, élu de Dessalé, il est membre du MLC. Honorable Lusungu, bonsoir.
Bonsoir, Jimaté.
Voilà, c'est Alain Hirung au micro. Maître Soudi Animati Kinkutu, expert en décentralisation. Bonsoir, Maître Soudi.
Ça va là.
Voilà, vos réactions, chers auditeurs et internautes, nous sont déjà parvenus comme d'habitude. Alfred Boudjo de Mbandaka, l'Équateur. Le bilan de l'exécutif provincial est mitigé. Pour la sécurité, le bilan est bon, mais la vie socio-économique reste très paradoxale par rapport au dire de l'exécutif. Pas d'eau potable, pas de courant électrique, la montée en échelle des tracasseries, la prédation, le favoritisme et la démagogie. Jean de Dieu, étudiant en L1, première licence SPA à l'Unikim, ici à Kinshasa, le bilan est caractérisé par la crise politique, des détournements, bref, un chaos généralisé entretenu par les fils et filles de cette province et un parlement inactif qui ne travaille pas pour l'intérêt de la population. En Mbandaka, dans la province de l'Équateur, vous nous suivez sur 103 FM et partout au monde sur RadioKP.net. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
En Mbandaka, les avis divergent sur le bilan de la gestion de Jean-Claude Baïndé, l'actuel gouverneur de l'Équateur, qui totalise un an et environ trois mois à la tête de la province. Quel bilan dressé de sa gestion à quelques mois de la fin de la législature sur les plans socio-économiques, politiques et sécuritaires? Tentative de réponse avec vous, Paul Richard Malingela.
Certains observateurs en Mbandaka s'accordent que ce bilan reste négatif, d'autant plus qu'ils ne voient pas des constructions ou infrastructures d'envergure comme dans d'autres provinces du pays, affirme-t-il. Les conditions socio-économiques n'ont vraiment pas changé, dit un fonctionnaire. Malgré la fin de l'insurrection armée du MLA, les tracasseries des services de l'ordre et de sécurité sont toujours là, notamment les barrières de marines le long des cours d'eau. Elles empêchent les riverains pêcheurs et d'autres paysans de vaquer librement à leurs occupations. Sur le plan politique, les opposants au gouvernement provincial affirment que seul le proche du pouvoir bénéficie des avantages. Mais pour eux, c'est la politique de la bouche cousue. D'autres Mbandakais se disent satisfaits de l'action du gouverneur Baïndé et lui-même estime plutôt que les critiques sur sa gestion sont l'œuvre de ses détracteurs qui ne voient que du noir partout. Il en veut pour preuve les travaux de modernisation de la résidence du gouverneur et du gouvernorat de province, la construction de la toute première morgue en Mbandaka, la réhabilitation et l'équipement des 6 immeubles destinés à abriter la conférence de gouverneurs, une cité qui fait la fierté de l'Équateur aujourd'hui. Dans ce chapitre, figure aussi la construction en cours du marché du Congo-Ouassa et la cité de coordination des programmes de santé. Tout cela sur fond propre de la province, dit-il. Dans le cadre des 5 chantiers de la République et au chapitre des transports, la province a été dotée de yachts pour le désenclavement des districts, des véhicules anti-incendie et de salubrité urbaine. Sur le plan socio-économique, le gouverneur Baïndé croit dur comme fer que le projet des centrales à biomasse serait la clé de la relance socio-économique avec effet d'entraînement. Mais déjà la création, par exemple, de la DGRPE, Direction Générale des Recettes de la France de l'Équateur, et de la Société des Transports Fluviaux de l'Équateur, a généré des emplois pour plusieurs familles. Mbandaka, Paul Richard Malingela pour Dialogue entre Congolais.
Merci Paul Richard Malingela. Maître Dismas Mangbengu, je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du gouverneur de la province de l'Équateur. Qu'est-ce que vous pouvez, en plus de ce qui a été dit, mettre à l'actif de votre gouvernement provincial sur le plan socio-économique et sécuritaire? Commençons par là.
Oui, sur le plan socio-économique, commençons par là, comme vous nous avez dit. Parce que si on a, en plus de ce qui est cité, il faut ajouter les infrastructures sanitaires qui sont en train d'être réhabilitées dans l'hôpital général de Kémena. On a parlé en celui qui a cité la cité que la morgue de Mbandaka, qui également a chuté la morgue de la ville de Zongo, de la ville de Badolité, celle de Djemena qui va certainement suivre, ainsi que les efforts déployés pour arriver tant soit peu à reconstruire les routes, à réouvrir les routes au trafic, comment dirais-je, du public. Vous savez, la province de Côte d'Ivoire est une province essentiellement agricole. Il n'y a pas de route. C'est pas comment on peut deviner la suite sur le plan social. Également, il faut dire qu'on est en train de désenclaver cette province. Il y a, avec le 27 ou 28 vedettes reçues, on a organisé des travaux avec la création de du service de transport d'hiver de Côte d'Ivoire. On est en train d'organiser, de désenclaver la province. Et au-delà de tout cela, il y a 100 acquisitions et 120 fournies. Et n'est-ce pas, c'est toujours dans le cadre de désenclaver la province sur le plan communicationnel, et qu'il faut certainement ajouter dans les réalisations du gouvernement provincial dirigé par Jean-Claude Bayende et Tassé Hélico. Je crois que la liste est tellement longue parce qu'on a vu il y a plusieurs années l'État qui ne s'occupait pas de Kinshasa, mais aujourd'hui on peut au moins voir l'État qui s'occupait de Kinshasa. Et c'est toujours là, et aussi même, comment dirais-je, sur le plan social, il faut ajouter que l'eau potable aujourd'hui à Bumba existe, à Lissala, il y a même du courant. Aller à Lissala, on a du courant de 18h à 23h, et l'eau potable, la rive des eaux a repris, tout cela fait partie des efforts déployés par le gouvernement Jean-Claude Bayende, avec son gouvernement, pour arriver certainement à maîtriser, n'est-ce pas, le facteur socio-économique qui bloque un tout petit peu le développement de la province de Côte-d'Ivoire.
Maître Bismarck.
Donc, c'est dans un premier temps, ce que je pourrais citer jusque-là comme réalisation sur le plan social.
Voilà, Maître Bismarck Mambengu, il y a cet auditeur qui nous écrit de Mbandaka, Eli Inkamba, qui dit, qui vous pose à vous la question, hein, nommément, Maître Dismas peut-il sincèrement nous dire ce qu'ils ont fait de concret jusqu'ici depuis qu'ils sont aux commandes de cette province? Pour son rappel, les 5 chantiers, le bilan est largement négatif, la ville est dans le noir total, entre parenthèses, la centrale ne tourne même plus, la régie des eaux ne fonctionne pas, juste à la fin de leur mandat, ils nous amènent 3 camions ben et un chargeur, soi-disant pour asphalter la ville, chose qui ne sera jamais faite, donc le bilan est largement négatif. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je déplore l'avis de ses concitoyens, alors que si effectivement il se trouve à Mbandaka, il ne peut pas raconter ce qu'il a fait tout à l'heure. Parce qu'à Mbandaka, vous pouvez, quand vous parlez de 5 chantiers, oui, mais arriver à Mbandaka, avant 2007, je dirais même avant 2009, qu'est-ce qu'on a pu voir à Mbandaka et qu'est-ce qu'on peut encore voir aujourd'hui? Nous avons la cité des gouverneurs, qui fait aujourd'hui la fierté de la France de l'Équateur. Une cité qu'on ne peut pas rencontrer, même pas à Kinshasa, moins encore à Lubumbashi. Une cité qui peut concurrencer aujourd'hui les grandes cités de la ville de Bruxelles, de Paris et consorts, parce que le confort qu'on peut aujourd'hui y trouver est digne, n'est-ce pas? Et, comment je dirais, si je peux ajouter, non seulement digne, mais effectivement, fait voir que la forêt de l'Équateur a pris la hauteur d'ici il y a 20 ans. Ça, c'est des deux. Même les Blancs qui nous ont colonisés, qui ont construit pour que la ville, aujourd'hui, Mbandaka, n'a pas pu laisser une mangue. Mais aujourd'hui, allez voir. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un cas de décès, vous gardez votre corps dignement pendant une année, même pendant 2 ans. La morgue fonctionne 100%. Il y a le grand laboratoire qui a fait hier, n'est-ce pas, l'écho de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, réhabilité, et le gouvernement provincial se bat bec et ongle pour, n'est-ce pas, comment dirais-je, obtenir tous les matériels nécessaires.
Maître Dismas.
D'équipement de ce laboratoire. Oui, je vous suis, monsieur.
Maître Dismas, le confort de la cité des gouverneurs dont vous parlez ne contraste-t-il pas avec la pauvreté criante de la population de l'Équateur?
Monsieur le journaliste, vous savez qu'on ne peut pas régler après 40 ans, après 50 ans, de misère, on ne peut pas régler tout le problème à la fois sur le plan social. Il faut commencer quelque part. Et le gouvernement Bayindé a choisi de commencer quelque part. Il a posé un premier pas. Parce que non seulement il travaille en désordre, mais il a voulu travailler dans l'ordre, comme dit-on, l'ordre conduit à Dieu.
Merci.
Et le gouvernement Bayindé, pour travailler dans l'ordre, a, n'est-ce pas, fait adopter un plan qui est un développement en France de l'Équateur. Et ce plan, c'est sur ce plan qu'il est en train de poser le premier pas.
Merci.
Et même si aujourd'hui, n'est-ce pas, son mandat arrive à terme, celui qui viendra, s'il observe ce plan, je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, on peut compenser le luxe, n'est-ce pas, oui, de citer le gouvernement, les constructions et la pauvreté cuillante dont vous faites allusion.
Merci.
Mais je peux encore ajouter, puisque vous parlez de la pauvreté cuillante, nous savons que le grand problème pour la pauvreté française, c'est l'énergie. Mais au lieu que les forces, toutes les forces de l'Équateur fédèrent autour de gouvernement Bayindé, pour que la pauvreté de l'Équateur ait des centrales thermiques dont on a d'ici là une suite, mais non. Au contraire, nous nous divisons sur des questions élémentaires.
Merci,
c'est la traverse avec des centrales électriques.
Maître,
parce que c'est le moteur du développement. Sans courant, on dit qu'on est le circuit noir. Mais qui veut le circuit noir?
Maître,
quand il est arrivé en 2009, il a trouvé le noir à l'Équateur.
Maître,
même avant, ce noir existait. Mais au moins aujourd'hui.
Maître Dismas, pouvez-vous m'écouter, s'il vous plaît?
Merci.
Voilà, permettez que je vous arrête à ce niveau, le temps de redonner la parole à d'autres intervenants et je vous retrouve tout à l'heure. Jean-Marcel Losongo, vous êtes député provincial de l'Équateur, élu de Bessalé, vous êtes membre du MLC. Quelle est votre réaction par rapport au bilan tel que présenté par Maître Dismas Mambengou que vous venez de suivre?
Merci, M. Guy Maté. Et avant de commencer avec le bilan de la province de l'Équateur, je dois d'abord vous donner un contexte. Je dois parler d'abord du système. Le système, c'est la RDC. Et vous savez que lorsque le système est foutu, les constituants du système ne peuvent pas donner un résultat escompté. Donc, c'est le cas de la province de l'Équateur. Donc, le bilan pour tous les pays est négatif. Et le bilan de la province est extrêmement négatif, si je dis bien. Vous avez suivi tout à l'heure la réaction d'un auditeur, mais je suis en train de regretter quand mon aîné, M. Mangungu, a dit que cet observateur, n'habite pas Mbandaka. Je dois regretter, messieurs les journalistes, quand vous allez dire le projet de 5 chantiers initié par le chef de l'État, mais il n'est pas existant à l'Équateur. Mais l'exemple le plus concret, l'ex-ministre de la tête de TPI qui est à Makala aujourd'hui, mais c'est pour avoir détourné le matériel mis à la province de l'Équateur pour les 5 chantiers, est-ce que vous pouvez espérer vraiment un bilan positif? Moi je dis non. Nous ne pouvons pas tromper la population qui nous suit aujourd'hui à travers la radio. Si aujourd'hui, si j'ai suivi mon aîné, le directeur du cabinet, dire que le développement de l'Équateur c'est l'énergie, non, moi je dis non, parce que la province est à vocation agricole. Et lorsqu'on ne veut pas rétrocéder les fonds destinés aux entités territoriales décentralisées pour la réhabilitation des infrastructures routières, mais quel développement, quel bilan attendez-vous, messieurs les journalistes? Moi, je vous dis, le bilan est largement négatif. Mais sinon, comment on doit avoir un bilan positif en même temps que l'exécutif provincial n'a pas même d'administration? Donc, la province de l'Équateur, en d'autres termes, est sous-administrée. Quand lui-même, l'intervenant de tout à l'heure, qui a son cachet comme le directeur de cabinet, et que le ministre de TPI qui attribue une maison au directeur du cabinet adjoint, et que lui, le directeur de cabinet, écrit au procureur de la République pour mettre à sa disposition un inspecteur judiciaire pour aller casser les portes de la maison de l'ex-ministre provincial de l'Intérieur.
On aura
acté dans mon territoire. Donc, il n'y a pas même d'administration. Vous ne pouvez même pas compter le bilan. Il n'y a pas un bilan. Et
sur place ici à la province. Il y a plus de 4000 trous.
Honorable.
Il y a même un trou en face de l'Onatra où nous avons attribué à un collègue Eli de Mbandaka.
Honorable.
Donc vraiment, je vous dis, le bilan est extrêmement négatif, monsieur le journaliste.
Voilà, c'est assez curieux. Vous avez quand même eu le temps de compter les trous. Ça fait 4000, c'est assez impressionnant. Honorable, je vous prie d'éteindre entre-temps la radio qui est à vos côtés parce que nous avons un retour d'antenne. Vous pouvez suivre le déroulement de l'émission sur votre téléphone portable. Il y a un député provincial également, mais de la province, de la province orientale, honorable Paulin Odiane, qui dit le bilan de la province de l'Équateur est largement négatif. Sur le plan politique, l'Assemblée provinciale, constituée dans sa majorité des députés provinciaux de l'opposition, n'a pas donné à la province un gouverneur de l'opposition, tout simplement parce que la corruption a pris le dessus sur l'éthique politique. Sur le plan économique, rien n'a changé. Sur le plan sécuritaire, rien de bon, mais l'insécurité a pris de l'ascenseur avec le phénomène Eniélé. Honorable Jean-Marcel Losongo, vous vous en prenez à l'exécutif, mais il faut dire qu'il y a également beaucoup de choses qu'on doit vous reprocher à vous, les députés provinciaux de l'Équateur.
Merci, monsieur le journaliste. Je crois ici, il est question de comprendre le système. L'exécutif a emplacé un bureau et a fabriqué une majorité pour défendre, non les intérêts de la population, mais les intérêts de l'exécutif. Allez-y comprendre dans un pays démocratique, et on prend le pouvoir par un coup de force et les autorités ne disent rien, ils sont là, ils observent. Et c'est comme ça que je suis en train de déplorer ce comportement. Le bilan est partout négatif. Ça, je vous dis que l'opposition n'est pas majoritaire à l'Équateur, mais au contraire, le règlement intérieur de notre Assemblée interdit toute constitution des groupes parlementaires, des intérêts et partisans, tout ça là. Et le groupe ici, la dynamique de la majorité, qui soutient l'exécutif. Mais ça n'existe même pas parmi les 6 commissions permanentes. Et nous avons décrié. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, les autorités sont là, ils observent, ils avaient même accompagné ceux qui ont caché le missile et ils ont installé un bureau.
Honorable.
Donc, nous avons introduit la requête et il n'y a pas une suite. Ce n'est pas à nous l'opposition. Nous sommes là seulement pour dénoncer et nous vous disons que le bilan est vraiment très négatif. Et quand vous allez même, je donne un exemple, le ministre des Finances qui était passé répondre à une question orale qui nous a confirmé que la DGRP, donc la Direction Générale des Recettes Provinciales de l'Équateur, qui passe de 130 millions à 30 millions, la faible maximisation des recettes lui justifie par le désordre et l'imprudence. Et il y a des agents qui fabriquent les imprimés de valeur.
Ça,
je vous dis, la province est sous-administré, je vous l'ai dit, le bilan aussi est négatif.
Merci honorable, on vous garde dans cette émission. Maître Soudialimati Kimpoutou, vous êtes expert en décentralisation. Je vous donne la parole après cette réaction de Mokili Aderibo de Bounia en province orientale qui dit « Si le bilan est négatif, ce n'est que normal car l'Équateur est la province la plus instable de la RDC et cela dès les débuts de la législature, Maître Soudi. »
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, après avoir salué tous les auditeurs de la radio Kati, rappeler que la province de l'Équateur n'a pas été épargnée de tout ce qui avait comme instabilité des institutions provinciales. Vous vous souvenez, lorsqu'on fait les tours de la République, on commence toujours par rappeler cet aspect des choses, mais à l'Équateur, c'était encore pire parce que il y a eu changement du bureau de l'Assemblée provinciale, changement de l'exécutif provincial. Et le reste du temps, avant qu'on puisse avoir cette dernière accalmie avec l'arrivée du gouverneur Baïndi, tout le temps, au lieu de que les députés provinciaux et le gouvernement provincial se concentrent à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles légales pour promouvoir le développement de la province, ils sont mis à se chamailler, à se quereller, faire un testing politique. Et aujourd'hui, si le bilan il paraît être mitigé, je crois que c'est une responsabilité partagée des deux institutions. D'abord l'Assemblée provinciale en tant qu'autorité budgétaire, Donc tous les députés, de la majorité comme de l'opposition, tous ils sont responsables de tout ce qui est aujourd'hui comme considéré comme fait condamnable la gestion de la province de l'Équateur. Voilà. Je voudrais arriver maintenant au niveau de la présentation des éléments du bilan. C'est une remarque que j'ai toujours faite à l'ensemble des représentants des provinces, que ce soit des assemblées provinciales ou des gouvernements provinciaux. Vous voyez qu'il manque les indicateurs de vérification. La décentralisation, c'est un instrument de promotion du développement local. Et quand est-ce qu'on peut arriver au développement local? C'est lorsque on essaye de juger le niveau de fourniture des services sociaux de base. Et là, nous sommes à l'époque où les indicateurs précis, ce sont des objectifs millénaires de développement. Les niveaux d'accès à l'eau potable, les niveaux d'accès à l'électricité, accès à la santé, à la scolarité, la libre circulation des personnes et des biens, etc., etc. J'ai suivi le représentant du gouvernement qui a parlé de la mort, c'est très bien. Il a parlé des résidences, des marchés, tout ça, mais j'ai compris que le grand ouvrage, malheureusement c'est dans un bilan d'une année de gestion, le grand ouvrage ce sont les résidences des provinces. Et là, je reviens à la question des priorités par rapport à la fourniture des services sociaux de base. Est-ce que on peut promouvoir le développement local par la construction des résidences et la conférence des gouverneurs? D'ailleurs, la conférence des gouverneurs, en tant que quelqu'un qui suit la décentralisation, je sais que même la loi sur la conférence des gouverneurs prévoit qu'il y ait un budget mixte pour la réalisation de ce genre de travaux. Et non consacrer tous les budgets ou l'essentiel des fonds du gouvernement provincial, au lieu peut-être de faire des puits d'eau potable, et peut-être réhabiliter les écoles, ainsi de suite. On ne peut pas consacrer tous les fonds à la construction des résidences des gouverneurs pour la conférence des gouverneurs. À moins que le gouverneur nous dise que bon, ces bâtiments vont servir peut-être à un hôtel du gouvernement, les gens payeront et il y aura des recettes pour la caisse de l'Assemblée provinciale. Donc, lorsqu'on essaie de parcourir tout ce fait, il y a un problème sur la priorisation des activités pour la gestion des provinces. J'ai entendu les députés provinciaux parler de la rétrocession, stigmatiser et évoquer la difficulté qu'il y a au niveau national sur l'ensemble de la République. Je voudrais lui rappeler que la Constitution a consacré même un régionalisme politique au niveau des provinces. Donc il n'a pas raison de dire que c'est parce que le système au niveau national est paralysé, que le niveau de la province ne pourra pas arriver aux objectifs poursuivis. Non.
Mais
il y a une assemblée, il y a un gouvernement provincial. L'assemblée doit réellement jouer son rôle. Si les rétrocessions ne viennent pas, mais ils oublient, ils doivent organiser, eux, la collecte des recettes locales. Oui. Aujourd'hui, il y a un débat sur la création des taxes et impôts reconnu aux provinces par les assemblées provinciales. Moi, je pensais qu'il allait arriver là-bas et commencer à donner des arguments en faveur de la création des taxes conformes à les spécificités du gouvernement provincial.
Maître Soudi, il y a Aldos Kitoko qui nous écrit du Cassé occidental qui dit « Si la province de l'Équateur a perdu de l'élan, c'est parce que le pouvoir en place à Kinshasa a divisé les fils et filles de cette province et ces derniers sont restés distraits en oubliant l'objectif de reconstruire la province. Peut-on attribuer une certaine responsabilité à Kinshasa qui, d'après ses auditeurs, tirerait les ficelles pour déstabiliser la province de l'Équateur ?»
Je l'ai toujours dit, il y a une politisation à outrance des assemblées provinciales. Mais je crois que les amis de l'Équateur pourront tirer l'exemple de certaines autres provinces qui, à un moment donné, ils essaient de faire fi à cette manière de guider, téléguider la conduite des assemblées provinciales. Aujourd'hui, il y a un bilan qui sera fait. Les élus, lorsqu'ils vont rentrer dans leur fief, les populations vont leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse leur renouveler le mandat. Maintenant, ils vont s'adresser aux gens de Kinshasa? Je ne pense pas. Ils ont une responsabilité à faire. Et puis, les gens de Kinshasa, c'est sur le choix des personnes. Il y a la gestion de la province. Les grandes décisions sur la fourniture de services sociaux de base pour promouvoir le développement local. C'est eux qui doivent prendre le temps et imposer cela au gouvernement provincial.
Et celui qui refuse de le faire et qui le font légalement, ils ont des instruments pour sanctionner.
Merci.
Et non sanctionner parce que quelqu'un a dit sanctionner tel gouverneur ou de sanctionner tel membre du gouvernement provincial et ils se mettent vite à faire des motions.
Merci, maître. Maître Dismas Mambengo, il y a cet auditeur qui nous écrit également de Mbandaka à l'Équateur, Visa Bomengo, qui dit quel bilan attendre de la province de l'Équateur lorsque les salaires des enseignants de Bassankou, sous entre parenthèses, territoire d'origine du gouverneur, prennent en Mbandaka pendant 2 mois par la volonté de l'exécutif, lorsque les artères de Mbandaka sont plus sales que celles des chefs-lieux des secteurs, lorsque les politiciens originaires de l'Équateur s'insultent dans les médias, lorsque les gens continue à voyager sur des bois flottants comme au Moyen-Âge, lorsque l'adversaire politique est un ennemi à abattre. Maître Dismas.
Oui, merci, monsieur le journaliste. Avant de réagir, je voulais placer un ou deux petits mots sur l'insertion de l'honorable Lesongo. Parce que mon jeune frère Marcel Lesongo oublie sur le cas du ministre des Travaux publics aujourd'hui aux Affaires. C'est une démonstration par le gouvernement Baïndé. Il veut absolument que la province soit gérée de manière beaucoup plus saine. Et que qui que ce soit, n'est-ce pas, qui s'obligerait à poser des actes contraires à la loi, contraires à l'éthique, à la démocratie, rencontrera la rigueur de la loi sur son chemin. Et c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Celui-là, le ministre Mouzé, n'a pas été pris par hasard. Il a fallu encore les efforts du gouvernement lui-même. Que l'on dit non, il est voleur, il est ceci, cela. Mais comment un voleur peut-il arriver lui-même à dénoncer d'autres voleurs? Mais c'est curieux.
Et sur le plan sécuritaire, maître Mambengo, pour avancer.
Oui, j'en arrive. Permettez-moi, je vais réagir, parce que la question que vous avez posée, je ne l'ai pas oubliée.
Allons-y rapidement, on n'a pas suffisamment de temps.
J'y vais, mais Lesongo lui-même a reçu de l'argent pour construire le centre de santé, parce que quand nous parlons de celui ce de base, il y a le centre de santé de Béfaré, qui aujourd'hui, vous pouvez arriver à Béfaré, il n'y a rien, mais lorsqu'il dit qu'on veut déloger quelqu'un, mais lorsque quelqu'un ne suit pas la loi, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Il a été limogé comme ministre il y a 6 mois. Il ne veut pas libérer les résidents de fonction. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Je comprends que mon peuple périssant de connaissance disait c'est Christ qu'aujourd'hui, M. Lesongo, il doit périr, c'est pas faute de connaissance parce qu'il ne comprend pas ce qu'il doit faire.
Allons-y sur le plan sécuritaire, maître Mambengo.
Sur le plan sécuritaire, j'en arrive. Je voulais également reprendre parce qu'on dit 2 mois très naquit à ça. Mais c'est archi faux. C'est pratiquement sûr. Et sur le plan sécuritaire, je crois que vous avez suivi dernièrement avec l'instauration des itinérances que le gouverneur a instaurées, des itinérances à répétition, le problème des tracasseries policières aujourd'hui est presque oublié. Aujourd'hui, ce qui a jeté hier l'Équateur dans la mare, l'insécurité avec l'insurrection que les autres dénomment Emelia, mais que nous appelons Ignele tout court, l'affrontement entre Ignele et Mundaya. Aujourd'hui, on ne peut plus en parler parce qu'il y a deux, trois semaines, les gouverneurs sont descendus sur le terrain, mais des communautés se sont réconciliées. Et avec cette réconciliation, sur le plan sécuritaire, il n'y a plus de problèmes à proprement parler à travers la province de l'Équateur. Donc, le trafic fluvial a repris, et aujourd'hui, Kinshasa, pendant la guerre, disons, l'insurrection armée Niélé, Kinshasa a subi le contre-coup. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas été, les conseils de Bagnoc, les riz de Bumba, les bons riz de Bumba, n'a pas pu atteindre Kinshasa.
Merci.
Les bons poissons de l'Équateur n'ont pas pu atteindre Kinshasa. Kinshasa a connu une petite famine. Véritable famine. Une véritable disette.
Merci, maître Mambengo.
Eh bien, aujourd'hui, le trafic a repris. Kinshasa.
Maître Mambengo.
Et je termine.
Terminez rapidement.
Je suis à 2 mots de la fin, monsieur le journaliste. À 2 mots de la fin.
Non, l'émission donc, continue encore. Terminez juste votre idée, on va continuer. Je vous en prie.
Oui, c'est pour dire que le trafic a repris aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut circuler librement à travers l'Équateur. La seule province où on peut circuler librement, c'est à l'Équateur.
Merci.
Et vous savez, à l'Est, il y a eu des guerres, il y a eu des insurrections.
Merci.
Et on ne peut pas circuler librement comme on le fait aujourd'hui à l'Équateur. Tout cela parce que les gouvernements provinciaux s'est investi.
Merci, Maître Mambengo.
S'est investi, d'ailleurs, à l'origine de la ville de cette guerre.
Maître Mambengo, permettez-moi de vous arracher la parole. Honorable Jean-Marcel Losongo, visiblement, le contrôle a échoué dans la province de l'Équateur. Les députés provinces, les plénières au niveau de l'Assemblée provinciale sont assez rares. À quoi s'en tenir, hein?
Allô?
Allez-y, vous êtes en ligne.
Merci, Guy Mathieu. Je dois d'abord rectifier quelque chose. Je dois dire à mon aîné, M. Mangwengu, qu'il a perdu, il a raté l'objectif. Moi, honorable Losongo, je n'ai pas reçu les fonds parce que, en tant que parlementaire, ce n'est pas à moi de construire les centres de santé. Il n'y a aucun document, ça je dis bien. Mais ce que je dois rectifier par rapport au propos de l'autre intervenant, pour dire que il y a eu construction d'un cité de gouverneur. Moi, d'une cité de gouverneur, je me suis dit, moi je dis non. C'était les maisons des enseignants de l'ISP Mbandaka qu'on a réhabilité. Ce n'est pas la construction. Il faut quand même qu'on se le dise de vérité. Ça, c'est un, deux. Moi, je n'ai pas dit que la rétrocession traîne au niveau du gouvernement central. La rétrocession arrive à Mbandaka. Mais au niveau de Mbandaka, ce n'est pas rétrocéder aux entités territoriales décentralisées. Ça, c'est un. Deux. L'érosion qui menace la cité de Boende, près de la banque. On a débloqué plus de 1000 sacs avec 10 millions de francs congolais, mais cette somme est détournée. Et aujourd'hui, ça fait l'objet d'une commission d'enquête initiée par l'honorable Ekofumboyo Bourreau. C'est dire que le développement de la province, c'est l'électricité, c'est la régie des eaux. Les bilans, tous les budgets que nous votons, mais la régie des eaux, ni si dire pas, on ne prévoit même pas un centime pour la régie des eaux. Et comment vous pouvez espérer avoir de l'eau potable? Moi, je dis vraiment, si nous passons devant les chaînes et il y a toute la population de l'Équateur qui nous suit, nous devons quand même dire la vérité et accepter que nous avons échoué. Il a fait allusion au fond pour que les députés construisent. C'est la majorité qu'ils ont fabriqué avec une mission de récupérer cet argent-là.
Honorable
et qui allait se construire. Mais ce n'est pas notre mission.
Honorable
moi,
Lefongo.
Je dis, oui, Guy Mathieu, permettez-moi que je termine un peu.
Terminez votre idée.
Je dis ceci. Le bilan est vraiment largement négatif. La morgue dont il est question, ce n'est pas le social de la population.
C'est sur le plan
les
sécuritaire, Nora.
Ils vivent dans des conditions inhumaines. Je viens de vacances parlementaires. Les enfants sont sur le sol. Et est-ce que M. Mangongu peut vous démontrer ne fût-ce qu'une école où le gouvernement provincial a construit, ne fût-ce qu'un centre de santé, lui fait allusion au plan quinquennal. Bon, nous savons que le gouvernement de l'Équateur est en train seulement d'inaugurer les réalisations des systèmes des Nations Unies qui sont ici à la province de l'Équateur. Mais il n'y a plus rien, le bilan est vraiment négatif. Si ce n'est pas seulement faire des tournées, des campagnes jusqu'aujourd'hui, le gouvernement provincial est en campagne électorale.
Honorable
il faut aller dans
Songo.
Tel district, il faut
Honorable.
Aller dans tel territoire, il faut aller comme ça pour battre campagne.
Honorable
mais
Losongo.
C'est plutôt du social de la population.
Honorable Losongo, si vous monologuez, ce sera difficile à nos auditeurs et internautes de comprendre les arguments que vous êtes en train d'avancer. Si vous me suivez, honorable, pouvez-vous dire un mot sur l'aspect sécuritaire également, brièvement? Honorable Losongo?
Oui, Dimaté, je vous suis.
Voilà, dites juste un mot sur l'aspect sécuritaire parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps.
Bon, l'aspect sécuritaire, n'en parlons même pas. Nous observons des tracasseries partout, les longs du fleuve, au niveau même de la base, il y a des tracasseries policières, tracasseries administratives. Allez-y comprendre, lorsque le ministre des Finances vous avoue que il y a des imprimés de valeur que des agents sont en train de fabriquer sans que ce soit contrôlé par la Direction Générale des Recettes des Provinces de l'Équateur. Donc, il y a l'insécurité totale sur tous les plans, je dis bien.
Honorable Losongo, puisque vous avez encore la parole, qu'est-ce qu'il faut faire à quelques mois de la fin de la législature pour élever la province de l'Équateur?
Moi, je crois bien, bon, vous savez très bien que nous avons investi le gouvernement provincial sur base d'un plan quinquennal dicté par le CNUD, mais ce plan-là n'est pas respecté. Phase 1, de 2. La justice même, les lois du pays sont violées. Le bureau que nous avons aujourd'hui n'est pas légitime. Les gens qui cassent le bureau par un coup de force et qui installent un bureau qui jusqu'à aujourd'hui continue à opérer. Donc, je ne crois pas que à la veille des élections, on peut faire quelque chose. Moi, je crois qu'il faut s'assumer. Le bilan est négatif et la population est témoin. Nous attendons la sanction.
Merci honorable. Nous comprenons donc que vous n'avez pas de proposition. Maître Soudi Alimasi, il y a cet auditeur Boniface Mbawa de Matete ici à Kinshasa qui dit « L'Équateur ne peut être bien géré que par un homme originaire comme à l'époque de Mobutu. »
Non, il n'a pas raison. Je crois qu'il faut que les populations soient dirigées par leurs élus. Si l'élu est un homme originaire, il n'y a pas de problème. Moi, je crois que je voudrais un peu revenir au propos des intervenants. L'honorable vient de souligner que dans le budget, il n'y a rien qui est prévu pour l'eau. Je crois que l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée provinciale. C'est quand même assez grave que ça vienne de la bouche d'un député, que rien n'a été prévu, tout ça. C'est que les gens ne connaissent pas réellement le rôle qu'ils doivent jouer. Ils doivent avoir des priorités. La population de l'Équateur. Moi, qui vous parle, je circule le territoire. Je connais ce qui se passe. Il y a même des contrées où les gens n'ont même pas d'habit. Est-ce qu'ils connaissent ce problème-là? Je crois qu'il faut se fixer des priorités. T'as un budget. Vous êtes autorité budgétaire. Vous dites, dans le budget, rien n'a été prévu en matière de domaine. Qui doit mettre ça? Si le gouvernement concerne la famille. Je voudrais rappeler aussi que le fait de prendre l'argent au niveau du gouvernement provincial et de donner à un député pour aller exécuter un travail comme service social de base dans sa circonscription électorale, c'est une violation et de la Constitution et des lois de mise en œuvre de la décentralisation. Parce que le rôle ont été définis par ce texte dans notre pays. Donc, la question aussi de la rétrocession. Il y a des lois, il y a des mesures d'application qui sont là. Moi, je sais qu'au niveau du ministère des Finances et du pouvoir central, dans le mécanisme de répartition de ces rétrocessions, il y a même des chiffres qui sont déterminés pour les entités territoriales décentralisées. Il appartient à l'Assemblée provinciale de faire le suivi pour que cet argent arrive à destination.
Maître Soudi.
Il y a encore quelque chose d'un peu grave. Lorsque le député rappelait que le plan quinquennal a été fait par CNUD, est-ce qu'un plan quinquennal d'une assemblée provinciale doit provenir d'un partenaire comme le CNUD? Vous voyez que c'est très dangereux. Je crois qu'il y a lieu que les élus, non seulement ils doivent connaître une formation un peu suffisante en matière de la mise en œuvre des questions de décentralisation, mais ils doivent s'assumer et prendre leurs responsabilités. Un plan quinquennal de gestion d'une province édité par le CNUD, je ne sous-estime pas le CNUD, c'est un partenaire important pour la mise en œuvre de la décentralisation chez nous, mais ça doit d'abord être l'affaire de l'Assemblée provinciale.
Maître Soudi, alors, en ce qui concerne les propositions, qu'est-ce qu'il faut faire pour relever la province de l'Équateur?
Je pense toutes les erreurs constatées, on peut les mettre ça dans le premier apprentissage, et la première expérience de la vraie décentralisation que nous sommes en train d'expérimenter. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Je crois que l'Assemblée provinciale peut se ressaisir, le gouvernement provincial peut se ressaisir pour voir dans quelle mesure, pour l'année qui reste, comment réajuster le budget national, comment orienter le gouvernement provincial à prioriser, à faire le choix des priorités de la province de l'Équateur. La province de l'Équateur a besoin que les gens puissent avoir accès à l'eau,
les gens, les enfants puissent avoir accès à la scolarité, que la population puisse avoir accès aux institutions de santé, équipées avec des médicaments appropriés, que les infrastructures de base, comme j'ai entendu le cabinet du gouverneur, qui puissent s'appeler au désenclavement des contrées, parce que même le Belge qui a colonisé notre pays, il a réussi à le supprimer parce qu'il a pris la première stratégie et d'ouvrir les routes. Je crois que c'est l'un des éléments clés qu'il faudra voir l'étendue de l'Équateur, c'est une forêt très vaste, et il faudra, dans la mesure du possible, faire le choix de ces éléments pour qu'il y ait connexion entre les districts, entre les territoires, entre les entités territoriales décentralisées, pour que les gens qui cultivent puissent évacuer leurs produits, trouver des acheteurs, pour ça qu'ils vont ramener de l'argent aux contribuables, pour merci. Payer les taxes de la province, etc.
Merci. Maître Dismas Mambengu, je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du gouverneur de la province de l'Équateur. Il nous reste très peu de temps pour terminer l'émission. Je vous demande des réponses très brèves. Maître Dismas, quelles sont vos propositions pour améliorer le social, la sécurité de la province de l'Équateur dans le temps qui vous reste d'ici la fin de la législature?
Oui, bien merci, monsieur le journaliste, pour cette très belle question. Je crois que l'auditeur de tout à l'heure, le confrère, a bien dit que ce qu'on a pu observer de négatif dans ce que le gouvernement a fait, entre dans ce que DOE disait, la conduite du CIR, dit quand les premiers essais, lorsqu'il y a erreur, il y a moyen qu'on sait qu'effectivement il y a erreur, on peut, n'est-ce pas, se ressaisir. Mais le plus grand problème, c'est plutôt l'attente entre fils et filles de l'Équateur, entre les institutions, la très franche collaboration entre l'Assemblée et le gouvernement provincial. Parce que vous avez compris tout à l'heure que le député qui a répondu, mon jeune frère Marcel Le Sauveau, n'est pas du tout à la hauteur de sa tâche. Alors que bien des députés ont compris qu'il y a eu une évolution dans la province, et ils soutiennent en toute majorité, une majorité incontestable, ce que le gouverneur est en train de faire. Parce que le gouverneur a pris compte des erreurs encaissées par son prédécesseur, le gouverneur Makila. Il a dit qu'il y avait des erreurs, il est en train de rectifier le tir. Et je crois que maintenant, la relance est là. Économique, sur le plan sécurité, sur le plan social. Alors que je lui cite une seule école. Sur l'avenue de Mumba, il peut aller sur l'avenue de Mumba, il trouvera à côté de l'église Notre-Dame une école entièrement conçue sur fond.
Maître Dismas, il nous reste moins de 2 minutes. Je vous ai prévenu qu'il fallait des réponses courtes. Honorable Le Songo, nous allons devoir attaquer les conclusions. L'émission va toucher à sa fin. Quelle est votre conclusion déjà?
Merci, M. Guy Maté. J'ai réagi un peu quand M. Mangongo dit que je ne suis pas à la hauteur. Lui, en tant que juriste, il accepte un bureau qui a pris le pouvoir par un coup de force et qui a constitué une majorité fabriquée pour défendre les gouverneurs et les intérêts de l'exécutif provincial. Nous sommes de l'opposition. Nous avons dénoncé, mais parce qu'il y a la majorité fabriquée, nous n'avons rien à faire. Mais ce que nous voulons, la nous devons quand même respecter les lois du pays. La Constitution dit qu'il ne peut prendre le pouvoir par un coup de force. Commencez par remédier d'abord la situation. Tout est parti par un coup de force au sein de l'Assemblée et c'est pourquoi il est constitué un groupe de députés qui n'ont sont à l'hémicycle pour défendre les intérêts de la population et les développements de la province, mais ils sont là pour défendre le gouvernement. Vous nous demandez par rapport au budget sur le problème de la régie des eaux. Mais nous avons dit, nous sommes
merci, honorable Le Songo. Merci, honorable Le Songo. Il nous reste moins d'une minute. Maître Soudi, conclusion.
Oui, la conclusion, c'est que l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial puissent se ressaisir pour savoir faire les choix des priorités de la province. Et les choix des priorités de la province doivent s'orienter vers les objectifs millénaires de développement.
Merci.
Accès à l'eau, l'accès à l'électricité, la scolarité, à la santé, etc. Réhabilitation des infrastructures.
Merci. Maître Mambengu, juste un mot, je vous en prie, un mot.
Juste un mot, le gouvernement provincial dirigé par Jacques Le Bandé a compris tout ce qui venait d'être dit.
Merci.
Et s'il ne veut pas
Merci.
Merci,
c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à l'équipe de Radio Okapi Mbandaka qui nous a aidé à préparer cette émission. Bon, tu te programmes sur Radio Okapi. Thank you.